Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir en profession philosophe enregistré avec Heinz Wissmann et diffusé en janvier 2020. Profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Comment l'apprendre? Comment le transmettre? Comment se fabriquent les idées? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui aime la philosophie et le tennis, la philologie et le football, Héraclite et Adorno, la France et l'Allemagne, la Sorbonne et le HESS. Et puisqu'il n'aime rien tant que penser non pas seulement en français, ni en allemand, ni en anglais, mais bien entre les langues, voici une chanson à l'origine néerlandaise qui raconte la rencontre entre un garçon allemand et une jeune fille française qui ne se comprennent pas. Bonjour Heinz Wissmann.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Sans vouloir tout révéler de l'émission qui nous attend, puisque je connais vos goûts musicaux et on va en entendre d'autres, il n'est pas difficile de me dire que cette chanson ne rentre pas exactement dans vos classiques.
Certainement pas.
Vous la connaissez?
Non, pas du tout, mais c'est ce qui m'hérisse le plus quand j'écoute la musique de divertissement allemand. Je vois toujours les Barbarois dans leur accoutrement, et la bière à portée de la main, en train de tressauter sur leur siège, à un rythme qui est assez entraînant, mais qui est d'une très grande vulgarité.
Ah, c'est ça qui vous déplaît, c'est vulgaire?
Oui, ça me déplaît profondément.
Mais vous arrivez à dire pourquoi?
Mais parce que c'est répétitif, sans aucune variation réelle. Et s'il n'y a pas, dans ce qui est toujours pareil, quelque chose qui est un peu autre, on s'ennuie, et à la longue, on trouve que c'est barbant. Bon, j'ai pas d'autre mot pour dire le sentiment que m'inspire ce type de musique.
Et ça vaut pour tout, pas que pour la musique. La répétition sans
transformation. Ah oui, ça vaut pour tout, naturellement. Mais la musique est peut-être l'expression la plus violente de ce choix du toujours pareil. Dans la musique industrielle qui nous assaille de tous côtés, on a affaire à ça. La vraie musique, c'est une musique qui est aux prises avec une dissonance, une altérité, une difficulté qu'elle surmonte dans le développement.
Et en cela, je vois déjà l'influence d'Adorno dont on parlera dans un instant. On va passer 50 minutes ensemble, Heinz Wissmann. 50 minutes au cours desquelles nous allons remonter à l'origine de votre rencontre avec la philosophie, découvrir vos sources d'inspiration philosophiques et extra-philosophiques, pénétrer dans votre atelier de fabricant de concepts et réfléchir avec vous au rôle politique de la philosophie. Mais avant cela, s'il fallait trouver, énoncer un thème, un concept autour duquel votre travail s'articule, ce serait celui de langue, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Comment vous définissez la langue?
Non, il ne s'agit pas tellement de définir la langue. Il s'agit de définir les possibilités de la pensée. Alors, il n'y a pas de pensée sans langue. On pense toujours en langue. Faut dire qu'on ne parle pas seulement en langue. On pense en langue et il est impossible de détacher la pensée de la langue, sauf si on considère que la pensée, c'est une rêverie. Mais à partir du moment où c'est quelque chose comme un raisonnement articulé, à partir du moment où la pensée dit quelque chose de déterminé, elle est rivée à la langue et elle pourra succomber au jeu local d'une langue. Et dans ce cas, ça devient quelque chose de presque folklorique. Il existe des penseurs folkloriques qui ne sont pas négligeables. Ou bien on considère que la pensée est à même de travailler sur la langue et de faire de la langue un support qui lui-même varie. Et je crois que les vrais philosophes sont les philosophes qui sont aux prises avec ce que la langue qui est la leur inspire comme premier réflexe dont ils mettent en question la légitimité. Et du coup, ils doivent mettre en question la légitimité du dire tels qu'ils sont habitués à le pratiquer.
Mais c'est pour ça que je vous ai posé la question de la définition de la langue, parce que la langue, c'est pas exactement comme le langage, par exemple, ni comme le dire.
Entendu, comme ça je vous entends. Si on pense à Germaine de Staël, qui s'y connaissait parfaitement, quand elle dit que le privilège du français, c'est de permettre de parler sans dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'il peut y avoir un régime de langue dans lequel il ne s'agit pas simplement de désigner et d'évoquer des réalités extralinguistiques. Il y a un jeu de la langue qui peut être un petit jeu interne à la langue qui se complète dans la rencontre avec elle-même. Et parler au sens français correspond à cet exercice-là, qui est d'une certaine manière dispensé de désigner avec netteté une quelconque réalité. Et si vous me permettez, je cite encore Germaine de Staël, que je trouve absolument incontournable pour les histoires franco-allemandes. Quand elle était en Allemagne, à partir de 1803, elle s'étonnait de voir qu'on ne pouvait pas interrompre ses interlocuteurs. Donc il n'y avait pas de conversation, parce que les types voulaient finir leur phrase. Et alors elle s'est interrogée sur le sens que peut avoir la conversation, puisque, comme elle écrit, la conversation n'a pas pour objet d'établir une quelconque vérité. C'est pas un dire, c'est un parler. Et donc, elle ajoute que la conversation a pour but de créer une sorte d'électricité qui permet à ceux qui sont trop tendus de se décharger et à ceux qui ne le sont pas assez de se recharger. Eh bien, mettons ça en contraste ou en opposition avec une autre manière de dire. Alors, on a déjà la complexité du problème qui, au fond, est un problème de rapport à la langue qu'on parle, car on peut la parler contre elle, on peut s'en détacher pour ne pas être obligé de désigner ce que les mots désignent, pour désigner autre chose avec les mêmes mots. À la limite, on peut faire de la poésie. Et il n'est pas totalement illégitime de considérer que la philosophie entretient un rapport profond avec la poésie.
Quelle est votre langue, Heinz Wissmann?
Enfin, je suis germanophone depuis le berceau. J'ai été un peu délivré de l'allemand par la musique, qui est une langue...
Délivré parce que c'était un poids?
Mais l'allemand, pour ma génération, a été un vrai poids. Je parlais allemand quand on commençait à prendre conscience, adolescent après la guerre, de ce qui s'était passé et... Il y a toute une génération qui avait envie de parler toute langue autre que l'allemand et d'être tout sauf allemand. Et on voulait être vietnamien, on voulait être palestinien, on voulait tout ce qui était opprimé ou bafoué pour se racheter. Il y avait une sorte de geste de rachat. Et la langue allemande, pour une génération d'Allemands, était devenue problématique. Et ça, maintenant, on le sait à quel point l'emprise du nazisme sur la langue allemande a été forte, profonde, et a finalement infecté un nombre considérable de mots et de tournures. Du coup, on ne pouvait pas tout simplement utiliser cette langue, même si c'était ma langue, je l'avais apprise de la bouche des gens avec lesquels je vivais. Mais je devais m'insurger contre cette langue. Et là, le français est venu m'apporter une aide considérable.
Vous dites « la musique m'a délivré de l'allemand ». Est-ce que la philosophie, pour vous, est devenue une langue?
Enfin, la philosophie est ce qu'on peut tirer d'une langue donnée en ne succombant pas aux évidences qu'elle charrie. Puisque le philosophe, si je puis me permettre, c'est ma conception de la philosophie, mais je crois qu'elle est juste.
Vous êtes là pour ça, en tout cas.
Eh bien, le philosophe a pour unique vocation de supprimer les contradictions.
De supprimer les contradictions?
Oui. C'est-à-dire, la réflexion philosophique, pour dire simplement, commence par l'affirmation que le réel est un, ce qu'on appelle l'être. Et ensuite, il est aux prises avec la diversité des phénomènes, la multitude des affects. Et il doit trouver une explication qui permet de concilier l'un et le multiple. Ça, c'est le premier système philosophique. Comme on sait, Thalès a imaginé que c'est par condensation et raréfaction que les choses deviennent multiples, alors qu'elles sont toutes de l'eau. Eh bien, la philosophie, jusqu'à ses manifestations les plus raffinées, eh bien, poursuit la chasse à la contradiction, qui est au début purement logique. Ce sont des énoncés qui se contredisent. Le tout est un, le tout est multiple. C'est une logique de proposition qu'il s'agit de traiter. Mais peu à peu, la philosophie a creusé la manière dont nous sommes tout le temps confrontés à la contradiction. Et la dernière contradiction, la plus difficile à éradiquer, c'est l'autocontradiction performative. C'est-à-dire quand je dis une chose parfaitement cohérente, mais que je ne suis pas habilité à dire. Par exemple, quand Spinoza philosophe sous les espèces de l'éternité, il fait dans son éthique quelque chose de merveilleusement cohérent, extraordinairement charpenté. Sauf que c'est pas lui, être fini, qui peut le faire. Aucun être fini ne peut se placer du point de vue de Dieu. Et donc, une des grandes difficultés de la philosophie, c'est qu'elle a, chaque fois qu'un système semblait donner satisfaction, puisque la contradiction avait disparu, eh bien, elle a tout le temps débusqué de nouvelles contradictions. Et c'est comme ça qu'elle a cheminé historiquement.
Et la philosophie n'est pas forcément systématique ?
Si.
Ah oui.
Sinon, c'est de la pensée. Et il faut vraiment faire la distinction. Il existe des pensées extraordinairement profondes.
Donc Nietzsche n'est pas philosophe ?
Il est par moments philosophe.
Pascal n'est pas philosophe, bon. Montaigne n'est pas philosophe.
Non, c'est des penseurs.
Héraclite ?
Ça, c'est un philosophe. Parce qu'il met en question la possibilité de dire quelque chose de non contradictoire sur la réalité.
De manière très aporétique et fragmentaire.
Oui, parce qu'il considère qu'il faut d'abord tenir compte du fait qu'on n'entend pas ce qu'on dit. Parce que le logos est le discours, et le discours ne s'entend pas dire ce qu'il dit. Et ce hiatus, cette espèce d'opposition, eh bien, il l'envoie à la figure des philosophes de son temps.
Philosophes qu'on appelle pré-socratiques. Ouais. Et vous, vous êtes philosophe, Hans Wismann ?
Mais j'ai du mal avec ce terme. Mais là, l'héritage de l'allemand fait qu'on ne peut pas dire en allemand « je suis philosophe ».
Comment ça ?
Parce que le philosophe, c'est quelqu'un qui a la prétention que seul le génie justifie de créer un nouveau système de philosophie. Sinon, on est historien de la philosophie, interprète de la philosophie, alors tout ce que vous voulez, je peux dire que ce suis, mais sauf philosophe. Et j'ai été profondément choqué il y a quelques années, quand je suis sorti de chez moi, c'était un jour Mossad, il pleuvait, et je sifflotais en sortant, et la concierge de mon immeuble m'a accueilli en disant « Monsieur, eh bien, fui le philosophe aujourd'hui ». Or, cette notion-là de philosophie, je la récuse. Or, il peut y avoir une philosophie morale, très fine, analytique, extraordinairement française d'ailleurs. Mais la définition de la philosophie que moi, je porte avec moi, considère que c'est de la pensée. Or, la pensée est plus littéraire que philosophique, parce que la vraie profondeur de la pensée se trouve dans la littérature. Et donc, c'est complémentaire. En fait, d'un côté, il y a la pensée, qui est indispensable à la philosophie, mais elle n'est pas la philosophie.
Et alors, pourquoi n'êtes-vous pas vous-même philosophe ?
Non, mais au sens strict du terme, il me manque du génie pour faire un nouveau système. Tout ce que je peux, ma prétention s'arrête, mais elle est assez, comment dire, prétentieuse, en effet.
Et précise, en tout cas.
Parce que je prétends que la tâche de quelqu'un qui fait de l'histoire de la philosophie ou qui veut analyser et comprendre les systèmes philosophiques, c'est justement de pénétrer le secret du discours philosophique d'un génie. Et cette humilité-là est indispensable.
Sinon, donc il faut être génial pour être philosophe, il faut du génie pour être philosophe.
Seul un génie peut être, au sens strict que j'en donne au mot philosophe, hein. Enfin, les Allemands appelleraient philosophe Kant, Hegel, enfin tous ces gens-là, mais jamais un professeur de philosophie.
Mais ça rend la vie du philosophe forcément déceptive. On n'est jamais assez bon pour être le philosophe qu'on voudrait
mais
être.
Mais en quoi ça me gênerait de considérer en toute honnêteté que ma tâche, c'est de rendre intelligible ce qu'un génie, donc un vrai philosophe, a construit. Ça ne me rabaisse pas du tout. Et je suis en paix avec moi-même en considérant que je ne suis pas philosophe. Je peux philosopher avec les philosophes, ça d'accord. Je suis trop très proche d'eux. Et peut-être, dans la mesure où je ne prétends pas m'opposer à eux avec un autre système, eh bien, je suis peut-être plus utile.
Vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ?
Oui. Eh bien, c'est un concours de circonstances qui a fait que je suis tombé sur la philosophie. Je voulais être footballeur et je me suis pété le genou.
Et... Vous étiez très bon d'ailleurs, je crois, oui, dans l'équipe nationale.
J'ai joué en première division. Ensuite, je me suis pété le genou et j'ai voulu devenir comédien. Et je me suis aperçu, c'est une longue histoire, que je n'étais pas assez bon. J'ai même fait des mises en scène, des choses comme ça, mais je n'étais pas assez bon. Pas assez bon pour moi. Je ne me satisfaisais pas de ça. Et ensuite, il y avait un problème de consolation. Et j'avais en tête le titre de l'ouvrage de Boès, La Consolatio Philosophiae. Et je me suis dit, mais il faudrait voir si la philosophie console vraiment. Et pour moi, la philosophie, c'est la plus haute consolation que nous pouvons rencontrer dans la misère de nos vies, où il y a toujours quelque chose d'inconsolable qui nous assaille. Et la consolation de la philosophie est indispensable pour s'en sortir. Du moins, c'est comme ça que je suis entré dans cette discipline, par une petite porte, parce qu'en Allemagne, quand on faisait des études, si elle devait aboutir à un doctorat, il fallait 3 disciplines, purement institutionnelles. Et comme je faisais grec et latin, je me dis, mais je m'intéresse aux philosophes grecs, donc j'ajoute philosophie. Et c'est pour ça, Boès, c'est déjà la philosophie antique m'intéressait beaucoup. Et donc, en ce sens, la résolution de contradictions au plus haut niveau de leur élaboration a quelque chose d'un artisanat sublime. Et c'est comme travailler avec ses mains.
Faire de la philosophie ?
Oui, c'est extraordinaire.
C'est artisanal.
Voilà. Et donc, encore une fois, pour que ce soit compris, je ne récuse en rien le travail des penseurs qui sont dans un tout autre registre, qui est tout aussi indispensable, mais qui n'est pas vérifiable en termes de philosophie.
Alors, penseur ou génie, en voici un, en tout cas, qui a compté pour vous.
Ça n'a pas mon parcours, parce que alors là, ça serait comme Dieu au septième jour, et Dieu vit que c'était beau. Je ne connais pas très bien la Bible, mais je crois qu'il dit ça à Dieu. Lorsque le boulot est terminé, il vit que c'était bien. Mais moi, je ne suis pas le bon Dieu, et je ne peux pas dire, mon Dieu, que c'est beau ce que j'ai fait.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Heinz Wiesmann, est-ce que vous avez reconnu la voix du philosophe que nous entendons ?
Jankélévitch, oui.
Vous avez travaillé avec Jankélévitch ?
Travailler avec lui, c'est beaucoup dire, parce que Jankélévitch avait, à l'époque, quand je suis arrivé en France, avait quand même toujours cette espèce de volonté de tenir l'allemand à distance.
Ah, il détestait les Allemands, oui, vous voulez dire.
Il a même juré de ne plus jouer les partitions de compositeurs allemands comme Beethoven, etc.
Exactement.
Il était absolument strict. Et je l'ai connu à un moment qui était un vrai tournant. C'était en 1960, 59-60, quand on mettait en place le traité de l'Élysée qui allait obliger les universités françaises à avoir des relations officielles avec les universités allemandes, avec les officiels de ces institutions. Et ça, Jankélévitch ne voulait en aucun cas que ça puisse se produire. Et là, avec Maurice Gandillac, avec Pierre-Maxime Schull, ils étaient d'accord pour dire, ben, on va précéder ce processus funeste qui se met en place et on va choisir un Allemand qui nous paraît inoffensif.
Et c'était vous ?
Et c'était moi par hasard, parce que je traînais avec une bourse. Donc j'ai commencé à enseigner à la Sorbonne, j'avais juste mon bac. Et j'étais, je la risais de tout le monde, parce que j'étais le moins diplômé de tous les enseignants universitaires en France, pendant de longues années. Mais c'est dû, et c'est pour ça que je le dis aussi clairement, c'est dû non pas à des qualités qui seraient les miennes. Ça, c'est plutôt après que cette opportunité les a révélées. Mais au départ, c'était pour eux une commodité de choisir un petit Allemand innocent, dont ils disaient d'ailleurs entre
eux... Que Jankélévitch allait tolérer.
Oui. Et donc, il m'a même, là, il serrait la main d'un Allemand, mais il m'appelait le teuton atypique. Je trouvais ça très mignon. Et beaucoup de mes élèves, après, ça, on les appelait les teutons. Parce que je leur faisais aussi faire de l'allemand. Voilà. Et donc, là encore, c'est les circonstances qui ont joué.
Et Jankélévitch, était-il un penseur ou un philosophe, selon votre distinction?
C'est un penseur.
Un penseur.
Oui.
Ils sont pas nombreux, les philosophes, alors.
Non. Et en France, il y a une tradition. Depuis Descartes, les philosophes, il y en a pas tellement.
Ah, il n'y en a plus, depuis Descartes?
Non, c'est pour moi le dernier vrai philosophe, au sens strict et un peu, disons, puritain du terme. C'est pas du tout pour déprécier la richesse de la pensée qui a pu se déployer en dehors de la philosophie. Mais en termes strictement philosophiques, la réponse que Descartes à essayer d'apporter à cette énigme du rapport entre le sujet et l'objet, entre le moi et le monde, etc., ben c'est d'une sécheresse absolue. Et cette réponse est vraiment philosophique et devient un problème que Spinoza, Leibniz, traite. Mais c'est interne à la philosophie et ce n'est pas les états d'âme qui peuvent nous assaillir depuis notre inconscient et qui ensuite nécessitent un traitement par la pensée qui constitue la philosophie. Là, je suis absolument strict et je dis toujours à mes élèves, je n'ose pas dire mes élèves maintenant, beaucoup des gens qui assistent à mon séminaire sont à la retraite et étaient mes élèves dans les années 60. Ils reviennent maintenant parce qu'ils ont des souvenirs, ils se disent « que faire de notre retraite ?» Et les pauvres, ils doivent renouer avec la philosophie, alors qu'ils viennent en général avec le sentiment qu'ils ont besoin un peu de pensée. Alors ensuite, on peut, avec ironie, jouer sur les deux registres, mais il faut les distinguer. C'est ce que je fais autant que je peux.
Une personne qui a compté pour vous et surtout pour qui vous avez énormément compté, c'est Barbara Cassin.
Wiesmann a été l'un de mes profs, vraiment. C'est un professeur dans l'âme qui enseigne sans compter. J'allais beaucoup chez lui, on travaillait beaucoup sur Mélissus, Xénophane et Gorgias, qui était mon doctorat d'alors. Et je travaillais beaucoup avec lui et j'ai tout appris. J'ai appris ce que c'était de croire que tout était possible, c'est-à-dire de croire qu'un auteur grec ancien pouvait aussi travailler sur les mots, sur la syntaxe. Un auteur grec mort pouvait avoir fait bouger le grec. Et Wiesmann est devenu un grand ami, il était même mon...
Mon quoi ? Vous étiez le quoi de Barbara Cassin ?
Ah ben je n'oserais pas dire.
Nous on a la fin de la phrase, mais ça m'intéresse de savoir... Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a révélé ?
Non, à un certain moment, il y avait une forme de complicité basée sur une profonde différence de caractère et de démarche.
Mais vous avez surtout été...
Mon témoin de mariage.
Oui.
Ce qu'elle avait plaisir à rappeler.
Mais elle s'est présentée, c'était à la mairie du 5e, elle s'est présentée pour la photo de la mariée avec les chaînes entourant ses jambes, etc. Non, Barbara, c'est... C'est un happening tout seul. Elle est extraordinaire, enfin, d'imagination, de verve, etc. Et donc, dans ce qu'on a pu faire ensemble sur les auteurs grecs, eh bien, c'était aussi une forme de complémentarité parce que les soubresauts auxquels elle pouvait se livrer étaient en même temps très, très inspirants, très utiles pour moi, alors que moi, ensuite, j'étais plutôt le censeur de ses libertés. Donc il y avait un jeu, je lui devais quelque chose que j'avais pas et je pense elle me devait quelque chose qu'elle avait pas. Et je retrouve l'opposition dont je vous parle.
C'est ça. Opposition cette fois-ci, non pas forcément contradiction.
Non, pas une contradiction.
Avant d'avancer plus loin et d'interroger, de pénétrer dans votre atelier justement et d'interroger la fabrique même de la philosophie, une dernière voix à écouter, quelqu'un qui a également compté pour vous, ça, on remonte dans le temps, hein, c'était bien avant la rencontre avec Barbara Cassin, et sans doute même avec Jean Kilevitch, il s'agit de Jean Bollack.
On se corrige tout le temps. Voilà. On arrive à quelque chose, à une perfection indéfinitive provisoire, à une perfection qui est consciente de sa précarité. Je n'aspire pas au définitif, mais je ne me réclame pas de l'impossibilité d'y aspirer.
Quel rôle a joué Jean Bollack pour vous, Hans Wiesmann ?
Alors là, on a besoin de plus d'une heure.
Ah, alors on ne l'a pas, parce malheureusement, parce qu'on a encore beaucoup de choses à écouter et beaucoup de sujets à discuter.
Non, parce que je l'ai connu très jeune.
Et d'abord, qui est Jean Bollack ? Tout le monde ne connaît pas Jean Bollack aujourd'hui ?
Enfin, c'est le plus grand helléniste français, sans conteste possible. C'est quelqu'un qui est en même temps... analyse des présocratiques, traduit les tragédies, commenté des textes grecs extraordinairement difficiles parce que c'était un connaisseur de la langue grecque ancienne hors pair. Vraiment, je ne crois pas avoir rencontré quelqu'un avec une telle richesse de perception de ce qui se joue dans la langue grecque antique. Pour cela, il faut être tout près de cette langue et presque capable de la parler. Ce n'était pas du tout l'enjeu, parce que lui cherchait plutôt à déchiffrer les textes. Et donc, il m'avait, à Berlin, j'étais étudiant, il m'avait vu apparaître dans le premier séminaire universitaire qu'il avait donné de sa vie, puisqu'il était tout jeune, détaché par la CNRS à Berlin. Il faisait un séminaire sur Empédocle. Et par hasard, j'ai assisté à ce séminaire. J'étais en deuxième année de lettres classiques plus philo. Et cet étrange personnage m'a tellement fasciné que pendant les 2 heures pendant lesquelles il parlait, je l'ai regardé sans bouger le petit doigt.
Pourquoi est-il étrange ?
Mais parce qu'il avait une telle passion, d'une telle énergie, une débauche extraordinaire que mes professeurs un peu éteints n'avaient plus du tout. Et donc, il y avait quelque chose comme un héros pédagogique qui va aller bien au-delà de ce que l'on peut enseigner dans une matière, dans une discipline.
Bah c'est votre cas aussi, si on en croit Barbara
Cassin.
Oui,
j'ai peut-être pris un peu de la graine. Mais bon, lui, c'était quand même infiniment puissant. C'est extraordinaire. Donc, comme je ne suivais pas, en crayon à main, et comme c'était son premier cours à l'université, il n'était pas sûr de lui. Il surjouait la scène. C'était très drôle. Et alors, à un certain moment, comme un vautour, il fond sur moi en me disant « Vous prenez pas de notes ?» Ce qui voulait dire « Vous prenez pas au sérieux que ce... » Et je lui ai dit mais non, je ne prends des notes, quand je ne comprends pas. » Alors, c'était complètement à côté de la plaque. Et donc, les assistants de l'université m'ont dit, mais écoutez, c'est notre invité étranger, il faut lui présenter vos excuses. Et donc, moi, obstiné, petit con, je suis sorti dans le couloir, à la sortie où il y avait les bureaux des professeurs, soudain une porte s'ouvre, une tête hirsute, voilà, était hirsute, sort, il me fait pssst, il me fait rentrer, il m'a dit, vous m'avez tout à l'heure dit que vous prenez des notes que quand vous comprenez pas, mais qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit? Ah, mais j'ai dit, mais j'espère avoir compris, c'est pour ça que j'ai pas pris de notes. Ah bon? Il m'a dit, il prend un verre d'Empédocle, il me dit, alors, traduisez-moi ça. Quel est le problème que j'avais soulevé? Je me souvenais de tout, quoi, c'était pas un exploit. On est resté, ça a commencé donc en toute fin d'après-midi. On est resté ensemble jusqu'à 5 heures du matin. Pour vous dire l'engagement passionnel pour la cause que représentait donc l'étude de la pensée d'Empédocle. Et on s'est plus quitté à cause de ça. Et pour moi, j'étais tout jeune, j'ai jamais vu un professeur pareil. J'ai jamais vu quelqu'un qui mettait autant d'exigences existentielles dans cette pratique finalement très technique qui consiste à déchiffrer un texte, à décortiquer des mots, à savoir comment on décline tel ou tel verbe.
C'était de la passion de sa part ? C'était quoi ce,
Mais comme il disait dans le petit extrait que je trouvais très très bien, il dit « Je ne m'interdis pas d'aspirer à la perfection », je le résume.
Au définitif, dit-il.
Au définitif. Ouais. Je ne m'interdis pas d'y aspirer, mais je suis conscient de ne jamais y arriver.
Ça vous définit assez bien.
Et ça, c'est parfait. C'est là que je crois on est au cœur de la chose. Et donc, je ne l'ai pas quitté pendant toute sa vie. À la fin, évidemment, on se voyait un peu moins. Et lui, il s'est beaucoup intéressé à la poésie contemporaine, Paul Celan, etc. Mais tout ça, c'était une petite société, parce que je jouais au tennis avec Celan, Bollack, Bourdieu... Dominique Fernandez, parfois Mayotte, Bollack, Belleano, Zeba.
Et vous jouez encore au tennis, même, je crois savoir.
Oui, dès qu'on va me délivrer de ma sciatique, je recommencerai.
Avant de rentrer précisément dans la fabrication de votre pensée, vous parlez de consolation dans votre rapport à la philosophie, cette quête de la perfection et du définitif. C'est aussi ce que l'on trouve dans la musique, et vous avez dit d'emblée l'importance que vous accordez à la musique. Je vous propose, on a un carrefour de l'émission, là, d'écouter soit le concerto pour clarinette en La majeur de Mozart, soit le quatuor à cordes en Ré mineur de Schubert. Que choisissez-vous ?
Bon, prenons Schubert pour être plus près de la conversation.
Thank you.
Est-ce également un rapport de consolation qui vous fait mes
choses? Oui, il y a une infinie tristesse qui est la toute grande musique, est infiniment triste. Elle est nostalgique. Et en même temps, elle apporte la consolation qui est la manière dont cette tristesse est articulée. Donc elle advient à un langage qui est le langage musical. Et le fait que ça s'exprime, que ça s'articule, que ça soit cohérent, est une consolation.
La consolation est dans l'articulation de la tristesse.
Dans ce qu'on appelait, pour une sonate classique, Beethoven, etc., il y avait au début toujours un thème ou deux thèmes qui se tiraient dans les pattes. Et ensuite, il y a le développement qui conduit à une résolution qui supprime la contradiction initiale en l'intégrant. Et ça, c'est la démarche même de la philosophie. On part d'une contradiction et ensuite on la développe. Et en développant la contradiction, on arrive à une construction dans laquelle elle est à la fois préservée et surmontée. Et la musique, c'est ce geste pour moi. Elle part toujours d'une émotion qui ébranle profondément. Sinon, c'est pas de la grande musique. Et une fois que elle
d'ailleurs,
a...
la joie arrive, vous l'entendez?
Oui, ensuite on sort de ça. Ça, c'est la jeune fille de la mort. C'est... Enfin bon, je peux pas dire mieux. Pour moi, la philosophie, c'est une consolation au même titre que la musique. Et évidemment, j'ai du coup une préférence pour la musique qu'on appelle classique. Parce que il y a le cadre de l'harmonie. On peut pas sortir de la tonalité. On n'est pas dans la tonale. Ça, c'est une aventure ultra-moderne. Ça, c'est tout à fait autre chose encore. Mais la musique dont je parle, qui est l'équivalent de la philosophie, c'est la musique classique où la tonalité est d'une certaine manière l'enracinement ultime d'un discours entièrement diversifié par toutes sortes de prouesses harmoniques, puisqu'on y revient toujours. Et donc ce mouvement-là qui fait coexister le même et l'autre, l'identique et l'altérité, c'est ça le cœur même de la philosophie et de la musique.
La musique comme la philosophie vise à créer ou retrouver cette unité en surmontant les contradictions, pourquoi continuer à faire de la philosophie ou lire des philosophes quand on a la musique, quand on a Schubert, Heinz Wissmann? Ça suffit?
Alors, on est des êtres complexes, c'est-à-dire il y a plusieurs manières de surmonter le mal-être. C'est-à-dire que notre condition est quand même une condition menacée, difficile à assumer, pleine d'embûches, etc. Et donc il y a plusieurs thérapies possibles. L'art est une thérapie que l'humanité a inventée très tôt pour s'arracher à cette espèce de course frénétique vers quelque chose qu'il fallait s'approprier avant de succomber. Les chasseurs, une fois rentrés dans la grotte, ils se sont dit maintenant la même chose, ben on va la contempler calmement sur les murs de la grotte. Et c'est des animaux en mouvement, mais arrêtés. Je prends cet exemple pour dire que chaque fois que l'art s'empare de notre existence, qui est haletante, qui est entraînée vers la fin et qui est donc quelque chose qui n'est pas forcément gai, eh bien, l'art, sous toutes ses formes, mais la philosophie aussi, arrête cette espèce de course éperdue et nous construise comme une maison dans laquelle on est chez soi. C'est parce qu'il y a un début, une fin, et donc tout ce qui court, tout ce qui s'élance, tout ce qui est en dissonance, tout ce qui crispe, etc., trouve sa raison d'être.
Mais vous ne trouvez pas des charmes à la dissonance, à ce qui crispe, à l'inachevé?
Mais elle est essentielle.
Le système qui s'appliquerait à tout, un système réussi à quelque chose d'angoissant aussi.
Mais jamais on a réussi un système. Tous les systèmes philosophiques sont à réviser sans arrêt.
Alors, soit on est désespéré parce qu'on parvient pas à ses fins, parce que le système n'est pas parfait, soit on est désespéré parce qu'il n'y a pas de système possible ou parce qu'on, finalement, même vivre sans système nous rend malheureux. Donc, dans tous les cas, on s'en sort mal.
Mais ça, c'est un autre malheur. C'est pas le malheur existentiel. Si on est triste parce qu'on n'a pas réussi à mettre en accord les pensées qui s'articulent philosophiquement, c'est autre chose que d'être triste parce qu'on a perdu un être cher ou qu'on est dans la mouise. Non. le fait que donc, la création d'un tableau à travers les âges, par exemple, incarne parfaitement cette obstination avec laquelle on veut stabiliser quelque chose qui s'échappe, qui fuit et qui nous rend triste. Soudain, on crée une sorte de, ce que je veux dire par la maison, c'est une présence. Mmh. Et cette présence suppose une forme de stabilité. Et donc, un système philosophique, même si on considère qu'il est de nature incomplète, qu'il faut le transcender.
Oui, c'est la stabilité qui vous plaît, ça, que vous recherchez.
Voilà. C'est comme un tableau de maître. Quand je lis Spinoza, je suis tout sauf spinoziste, je suis kantien. Mais pour des raisons que je peux expliquer. Je ne pense pas que Spinoza a fait des choses merveilleuses, mais il n'a pas raison. Philosophiquement, j'entends. Mais ce qu'il a fait a la valeur d'un magnifique tableau qu'on peut attribuer à un maître flamand de l'époque. Et c'est ça qu'il s'agit. C'est des œuvres. Je crois que le mot que je cherchais tout à l'heure pour dire ce que c'est que la philosophie, c'est un type d'œuvre. Une œuvre dans laquelle il ne s'agit pas de jouer l'ouverture à tous les possibles. C'est les fameux « comme possible » de Leibniz qui font que le monde est le meilleur des possibles, parce que sinon il n'y aurait pas de monde.
Une œuvre qui nous fait oublier qu'on va mourir, c'est ça?
Oui, c'est une,
pas oublier
qui, nous
fait ou
non, qui nous entraîne même dans la menace. Qui peut, la dissonance est là pour ça. Le contraste de couleurs, de formes, etc. est là pour ça. Mais la consolation est le but. Le but, c'est de nous faire accepter une finitude comme définitive dans le sens d'un achèvement et pas d'une perte.
Et ça fonctionne ?
Je pense que l'humanité s'est donné ce moyen thérapeutique depuis
toujours. Mais chez
vous,
vous vous sentez consolé quand vous faites de la philosophie ou quand vous lisez des philosophes ?
Je vis infiniment mieux quand je suis en train d'avoir l'impression de comprendre l'enchaînement d'arguments. Ça me fait oublier le mal de dos que j'ai actuellement. C'est aussi consolateur qu'un coup droit au tennis parfaitement centré. Or, pour centrer un coup droit, il faut quand même s'exercer énormément. Parce qu'il y a un nombre de paramètres considérables qu'il faut réconciliés entre eux, et il y a une contradiction majeure, parce qu'on veut frapper fort pour que la balle aille vite, mais pour qu'elle soit parfaitement centrée, il ne faut pas se précipiter, donc il faut un peu retenir le bras, avoir le bon timing, et la balle va d'autant plus vite qu'on la frappe moins fort. Et là, vous avez déjà cette espèce de petit jeu de stabilisation, qui fournit, même physiquement, un sentiment de bien-être qui est fugitif, qui n'est pas définitif, mais qui est lié au fait qu'une crise a été résolue. Un contraste qui nous a pesé, ou une difficulté d'accorder deux choses contradictoires, a été résolue et surmontée.
Jusqu'à la prochaine.
Jusqu'à la prochaine, je veux dire. Il y a pas, comme disait Bollack tout à l'heure, c'est sans fin. Mais en un sens, c'est magnifique que ce soit sans fin, parce qu'il y a l'espoir toujours de nouvelles découvertes d'architecture de consolation. Et ça peut être dans l'art figuratif. Pour moi, c'est la musique, parce que ma mère était un peu pianiste, même pas mal. Et bébé, j'étais dans le berceau, elle avait marre de mes cris, elle me mettait sous le piano à queue. Et donc j'ai été arrosé de musique pendant de longs mois, quand j'étais tout petit. Je pense que c'est toujours tout ça, une question de circonstances. Si j'ai choisi la philosophie, c'est vraiment par un concours de circonstances. Ensuite, je me suis trouvé bien avec cela. Et continue à le faire.
Quel rapport entretenez-vous avec votre travail? Alors, d'enseignant, vous en avez un peu parlé, mais d'écriture, vous avez publié, il y a plusieurs années maintenant, en 2012, Pensée entre les langues, aux éditions Albin Michel, dans lequel vous, à la fois, vous racontez votre histoire et cette manière que vous avez de vous tenir entre les langues, penser entre les langues. Est-ce que écrire pour vous, qui venait de nous énoncer le type de rapport que vous entretenez avec la philosophie, avec la musique, est-ce aussi une consolation? Est-ce que c'est un labeur? Vous avez employé la métaphore de l'artisanat pour parler de la philosophie. Est-ce que c'est le cas de l'écriture aussi?
L'écriture a une particularité, c'est qu'il faut s'abandonner à son cours, c'est-à-dire on s'inscrit dans l'écoulement du temps. Et lorsqu'on a une sorte de système dans la tête où les concepts et les arguments sont localisés dans une espèce de grand château avec des escaliers, avec des boudoirs, avec où on range tous les concepts pour avoir une structure un peu lisible. Eh bien, abandonner cette affaire qui est spatiale, les arts de la mémoire, c'est spatial, c'est une spatialisation depuis Cicéron. Abandonner ça pour se livrer au risque de l'écriture, ça peut être extrêmement coûteux, parce que quelqu'un qui écrit, comme disait Deleuze, à la pointe de son stylo, il est au bord du précipice, sans arrêt. Et donc, écrire est un exercice qui consiste à remettre en péril tout ce qu'on a pensé, pour le penser mieux ensuite, pour le rattraper.
Pourquoi un péril? Pourquoi pas simplement une traduction?
Non, si c'est seulement une traduction, ça n'intéresse personne, sauf des cuistres.
Bah, traduire, non, traduire ce qu'on a dans la tête.
Mais même, si on l'a dans la tête, on l'a. Alors que, on peut aussi le mettre en péril par l'écriture et ensuite le retrouver transformé par l'exercice de l'écriture.
Le péril vient de du choix du vocabulaire pour exprimer ce que l'on voudrait dire, qui n'est pas forcément fidèle à ce que l'on pense?
Non, je dirais autrement. Je dirais le péril vient du fait qu'on sort de la présence, c'est de l'espace, de la simultanéité, et on s'engage dans une succession qui comporte toujours le risque de la dérive, d'une espèce d'accident, puisque écrire, c'est quand même aller vers l'inconnu avec les moyens de la connaissance.
Alors que la pensée est entièrement présente.
Oui, elle a une présence.
D'un seul bloc.
Voilà. C'est pour ça que, alors bah, je dis toujours, il y a deux espèces d'intelligence. Il y a une intelligence qui est plutôt liée à l'espace et à l'organisation très très subtile et précise des unités spatiales qui s'articulent, qui s'agencent. Et une autre intelligence qui consiste à se livrer comme un navigateur à ce flot qui emporte l'écrivain et qui, constamment, en avançant dans cette espèce de houle, va se redresser, stabiliser ce qu'il est en train de faire et finalement découvrir une chose qu'il a écrite sans l'avoir pensée.
C'est ce qui vous est arrivé?
Ça m'arrive très peu. Je suis de l'autre espèce. Et c'est pour ça que j'adore enseigner, parce que quand j'enseigne, je peux m'abandonner à une autre temporalité qui est celle de la parole. Et là, le phénomène que on peut connaître quand on écrit, eh bien, on peut le vivre autrement. Et je suis beaucoup plus proche de la musique et de ce rêve avorté d'être comédien, parce que tout ça se tient. Quand je fais un cours, parce que là, je peux me laisser aller à la succession des mots dans le temps. Et je me rattrape, comme un funambule ou quelqu'un qui fait du cirque. Je me rattrape pour que ça se perde pas dans le n'importe quoi. Et ben, moi, je considère Bola qui était par exemple quelqu'un qui ne pouvait penser que s'il était dans la succession de l'écriture. C'est là que les idées lui venaient. C'est-à-dire que moi, j'avais les idées avant et parfois j'étais réfractaire à l'acte d'écriture parce que je trouvais, je trahissais ce que j'avais déjà. Tandis que en parlant, j'étais beaucoup plus à l'aise.
Mais le problème de la parole, c'est que ça ne reste pas, ou que ça reste dans les esprits
vrai,
de ceux qui vous écoutent.
C'est vrai. Maintenant, je suis extrêmement touché, là je suis âgé, et donc je découvre que des gens, depuis de longues années, ont enregistré mes cours et ont pris la peine de transcrire les cours. Et ces cours transcrits circulent maintenant. Et puis il y a des gens qui essayent d'en faire l'équivalent d'un livre possible. Et pas seulement un, mais plusieurs, parce que ça fait des années et des années qui ont été captés.
Vous auriez dû faire de la radio?
Peut-être. Non, la radio, je l'adore par rapport à la télévision, que vraiment je n'aime pas. La radio, j'adore à cause de cette plongée dans le temps. On est comme un musicien, je veux dire, qui crée un rythme et qui, dans le temps, veille à ce que ça ne déraille pas. C'est magnifique comme art. Vous voyez que, pour moi, art, ça couvre énormément de choses. C'est pas seulement ce que on appelle un travail artistique. C'est l'art, c'est un art de faire des choses qui ne sont pas facilement, je sais pas, ramassées dans une certitude qui s'ouvre sur l'incertitude. mais qui ne s'abandonnent pas à l'incertitude, qui se reprennent et qui, de cette manière, deviennent des effets consolateurs, puisque on retrouve ce qu'on était en train de perdre, on le ramasse, on le ramène, et on crée des cohérences qui sont des cohérences arrachées au cours inexorable du temps.
Avez-vous une responsabilité en tant que philosophe? C'est moi qui vous appelle ainsi, vous n'êtes pas obligé de l'accepter.
Oui, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. On m'appelle philosophe depuis toujours en France et bon, j'ai chaque fois un petit haut le cœur.
Alors, comment est-ce que je vous appelle?
Non, faites-le, il faut accepter la langue de l'autre.
Bah surtout, je ne pense pas que ce soit volé en ce qui vous concerne. Pensez-vous que, en tant qu'intellectuel, vous ayez une responsabilité? Et si oui, quelle est-elle envers la planète, envers le monde, envers la société? Quand on vous a posé cette question en préparant cette émission, vous avez abordé la question de la décolonisation intellectuelle. De quoi s'agissait-il?
Non, là, c'est un cas extraordinairement intéressant. On va en parler de plus en plus. C'est-à-dire la notion de décolonisation a remplacé la notion de déconstruction. Et en fait, c'est un héritage heideggerien qui, lui, parlait de destruction. Et ce qu'il s'agissait de faire, c'est de décoloniser la pensée européenne, puisqu'elle est autocolonisée par la métaphysique. C'est la thèse heideggerienne. Et donc, la décolonisation qui a permis à des pays colonisés d'accéder à l'indépendance n'est pas achevée tant que le colonisateur ne s'est pas décolonisé lui-même. Travers le monde maintenant, il suffit d'ouvrir sur Internet des entrées que je commence à pratiquer, où soudain, on a, par exemple, un modèle islamique de la décolonisation de l'Occident. Parce que si vous rentrez « Islamic decoloniality » dans votre ordinateur, vous avez « Heidegger for Muslims » pour les musulmans. Et vous avez des choses que je ne peux pas évoquer là, mais qui montrent que si on veut savoir, parce qu'il y a une responsabilité de ces gens qui prônent un système social, politique, autre que celui que nous connaissons, la démocratie libérale. Et quelle est la justification? Alors leur justification, ils la trouvent chez Heidegger. Et donc moi, le philosophe qui comprend Heidegger, je peux expliquer aux gens de quoi ils retournent quand ils utilisent ce type de discours.
Sauf qu'eux vont vous répondre, si je vous suis bien, que votre lecture d'Heidegger est européocentrée. Et qu'il y a une autre manière de le lire. Et c'est ce qu'ils proposent.
Oui, non, ils le lisent quand même en restant fidèles à Heidegger. C'est-à-dire qu'ils sont heideggeriens, très très fidèles. Non, le problème, c'est plutôt que pour comprendre ce que ça veut dire, il faut faire un travail, et là c'est une éducation aux difficultés de l'argumentation philosophique. Donc on prend au sérieux ce que chacun dit, et on regarde quelles sont les conséquences, et toujours avec ce problème de l'autocontradiction, on va amener les gens à reconnaître ce qu'il y a peut-être d'abusif dans leur manière de raisonner.
Mais donc pensez-vous que votre position est celle de celui qui a raison?
Non, celui qui doit éclairer les termes du débat.
Mais en donnant tort aux autres?
Non, pas forcément.
Il y a plusieurs lectures possibles d'une même histoire?
Non, mais que chacun découvre la pertinence de ce qu'il est en train d'avancer. Et là, la philosophie est un outil extraordinaire parce que la philosophie a mis à l'épreuve un nombre de contradictions incroyables. Et c'est comme une espèce d'arsenal d'analyse de contradictions.
Donc votre rôle, votre responsabilité est celle d'essayer de montrer comment la philosophie est aussi le lieu de l'énonciation de ces contradictions.
Et comment on peut s'en servir pour débusquer les contradictions qui ne s'avancent pas nécessairement comme philosophiques. Ça peut être politique.
Et par exemple
l'exemple que je cite, c'est-à-dire quand on considère que les médiations, lorsqu'on élit quelqu'un, que les médiations dénaturent la démocratie, que la démocratie n'est pure que si elle est directe, par exemple. Alors, on prend Platon, on regarde ce qui se passe quand on a une démocratie directe. C'est l'horizontalité absolue, où il n'y a pas de tiers de confiance qui émerge, à qui on donne pour un temps le droit de décider. Non, on est dans une simultanéité parfaite, et cette simultanéité horizontale, c'est maintenant les transactions bancaires se font à ce niveau-là, sans le tiers de confiance, c'est banque directe. Hein. Et si on soutient que c'est ça la vraie démocratie, il faut aller jusqu'au bout avec Platon qui dit que cette démocratie-là a besoin d'un tyran, va toujours accoucher d'un tyran. Et ça, on peut faire la démonstration. Ça ne veut pas dire que la démocratie par délégation de mandat est la solution parfaite. Elle a ses propres insuffisances. Et le philosophe est là pour trouver les outils intellectuels pour débusquer tout ce qui coince dans les certitudes que nous avançons.
Merci Anne Swissman d'avoir fini par définir le rôle du philosophe.
Merci à vous.
On se quitte avec Mozart quand même. Vous l'avez promis, le concerto pour clarinette en la majeure. Je crois que c'est la clarinette qui vous plaît dans ce concerto.
Oui, il n'y a pas d'autres pièces de Mozart qui utilisent cet instrument avec cette espèce de... Là, de nouveau, vous verrez, c'est nostalgique à soi. J'ai parlé du second mouvement, je pense.
C'est le second mouvement. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques mois, un ami m'a offert le chef-d'œuvre de George Eliot, Middlemarch. Je ne cesse depuis d'en recommander la lecture. Seul problème, je ne l'ai toujours pas fini.
Miss Brooke était belle. De cette beauté que semble mettre en valeur la simplicité des vêtements. Elle avait la main et le poignet si délicatement modelés qu'elle pouvait porter des manches dépourvues d'ornements, pareilles à celles que les primitifs italiens mettent à la Vierge Marie. Et son visage, autant que sa stature et que sa manière d'être, paraissait plus noble encore à cause de la discrétion de sa mise. À côté des modes provinciales, elle faisait ainsi songer à la grandeur touchante d'une belle citation de la Bible, ou d'un de nos vieux poètes, inséré dans un paragraphe du journal quotidien.
Finesse d'analyse des mouvements de l'âme, beauté de l'écriture, des portraits acides aux dialogues réalistes, idée géniale d'avoir créé une ville de toutes pièces et d'en avoir fait la scène de tension entre un ensemble de personnages, leur laboratoire sentimental et l'espace de leur évolution intérieure, alliance d'ironie et d'empathie, voilà pourquoi je ne cesse de vanter depuis presque un an le roman de George Eliot, Middlemarch. Je crois même qu'on pourrait en tirer une philosophie. Ce serait une nouvelle théorie des sentiments moraux, élargie à l'échelle d'une ville et de ses événements, tirée de l'imagination reine et pas du seul intellect de son auteur. Je vais jusqu'à voir dans ce roman un concurrent de La recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Et bien sûr, je ne manque pas de m'offusquer. Pourquoi, en France, personne ne connaît George Eliot? J'y vois un scandale, un grave manquement. Un manquement qui est en fait à la hauteur de ma mauvaise foi, car voilà, je n'ai toujours pas fini de lire ce roman. Alors c'est vrai, j'ai mes raisons, la fatigue, le manque de temps. J'ai des excuses aussi, le roman compte plus de 1000 pages. Mais est-ce suffisant? Car je le vois ce livre tous les soirs sur ma table de chevet, il me tend les bras, il me fait de l'œil, mais je le laisse là. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ça m'arrive. J'ai remarqué cette tendance chez moi, ne pas finir ce qui me plaît tout particulièrement. Pourquoi? D'où vient donc une telle absurdité?
Friends, a few brief words on this happy occasion. We're met together to celebrate the betrothal of my dear niece Dorothea to my good and learned friend, the Reverend Edward Casper.
Dr. Lydgate.
Miss Vincey,
Pourquoi ne pas finir ce qu'on a commencé, mais qui plus est, ce qui nous plaît? Il y a quelques semaines, je m'étais posé la question inverse. Pourquoi s'entêter à finir ce qui nous laisse indifférents, voire nous ennuie, au point parfois de frôler le masochisme? Drôle de paradoxe quand même. On s'inflige l'ennui, mais on s'empêche le plaisir. Et pourtant, n'est-ce pas si courant que ça quand on y pense? Mais oui, par exemple, pensez à toutes nos plaintes quotidiennes, banales, les efforts à faire, les courses, les transports, les réveils, le travail. Pensez aussi à tous ces vœux, ces espoirs qu'on a dans les prochaines vacances, l'approche du week-end, ces moments tant attendus où enfin on pourra s'amuser. Il faut le dire, l'ennui est courant quand le plaisir est rare, mais quand même. De là à se l'imposer à soi-même jusque dans ses lectures, jusque dans ses loisirs, ce serait quand même cocasse, un comble. Pourquoi donc s'empêcher de lire jusqu'au bout ce qui m'a tant réjoui jusque-là? La réponse la plus évidente serait par peur de finir trop vite ce qui est si bien, pour faire durer le plaisir. Une autre réponse serait par goût, par bon goût même. Les belles choses se dégustent et ne s'avalent pas. Il ne s'agit pas seulement de faire durer le plaisir ici, mais de prendre soin de l'œuvre elle-même, par souci de la comprendre, littéralement, de l'embrasser, de s'en imprégner totalement. Mais soyons honnêtes, ni l'un ni l'autre. Car au fond, je ne m'empêche pas vraiment de finir ce livre. Je ne le finis pas, purement, simplement. Quelque chose résiste en moi à l'achever, mais quoi alors?
Oh, c'est si bon!
What does "say si bon" mean, John?
Don't you know? It means that it's so good. When I say "c'est si bon," and I say "c'est si bon," because it's oh so good.
Ah, say it again.
Oh, mais oui. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good, c'est si bon.
Il y a longtemps que je ne compte plus les livres commencés, aimés mais pas finis. Pareil pour les films, les albums de musique laissés en suspens. Mais plus que par souci de l'œuvre ou par envie de faire durer le plaisir, si je ne les finis pas, c'est parce que c'est tout simplement si bon. C'est trop beau, c'est trop engageant, c'est trop. On pense que c'est facile de se laisser aller au plaisir, mais je ne crois pas. Déjà parce que le plaisir n'est jamais qu'une question de laisser aller. Le plaisir se manipule délicatement, mais aussi parce que le plaisir est, comme je l'ai dit, assez rare. Une fois qu'on l'a, on se sent perdu. En vouloir plus, ce serait presque prendre le risque d'être totalement perdu.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau et Nicolas Berger qui réalisent chaque semaine cette émission, et aujourd'hui, eh bien, ils s'y sont mis à deux. Ludovic Auger était la prise de son en compagnie de Jean Frédérics. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions. Lundi, je vous proposerai de redécouvrir les quatre émissions enregistrées autour du livre d'Henri Bergson, La pensée et le mouvant, une série d'émissions qui avait été diffusée en juin 2017. Ce sera l'occasion de se plonger dans l'univers du philosophe, de savoir ce qu'il nomme l'intuition philosophique, ce qu'est la perception du changement, comment distinguer le possible du réel, autant de questions cruciales auxquelles nous répondrons dès lundi. D'ici là, pour écouter ce Profession Philosophe en compagnie d'Heinz Wiesmann, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.